été, la Grande Table continue à faire entendre la voix des artistes et leurs créations. Commençons par la Méditerranée, où le festival de Sète Voix Vive met à l'honneur la romancière et poétesse Vénus Kourigata, qui sera notre invitée de 13h30. Mais avant cela, nous allons disparaître derrière le brouillard, l'obscurité de la nuit et les bas-fonds de la ville. L'exposition Fil Noir de la Maison Européenne de la Photographie fait la part belle au film noir, cette fois-ci, dont l'esthétique a aussi contaminé l'univers photographique. Images d'ombre, de flics disparaissant sous des imperméables et des volutes de fumée, scènes sanguinolentes de meurtre, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Pascal Hoël, responsable de la collection de photographies de la MEP et commissaire de l'exposition, et de Delphine Le Thor, professeure en études américaines et filmiques à l'Université du Mans. Bonjour à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maïlys Bessery.
Voilà un an, après une série de films américains de pauvre qualité, on donnait Hollywood pour épuiser. Aujourd'hui, conclusion sommaire, l'apparition d'une demi-douzaine de bons ouvrages en provenance de Californie fait écrire et jurer que le cinéma américain est plus prodigieux que jamais. Ils appartiennent à ce que l'on appelait jadis le genre policier, et que l'on ferait mieux de désigner désormais par le terme d'aventure criminelle, ou mieux encore, de psychologie criminelle. C'est l'un des grands genres cinématographiques qui a remplacé les westerns. Et il y aurait d'amusantes conclusions à tirer de ce remplacement du dynamisme des poursuites et de l'idylle mouvementée par le dynamisme de la mort violente et de l'énigme à élucider, aussi bien que du décor de la vaste nature romanesque par celui du fantastique social. Nous connaissions la formule du récit policier, nous assistons à la mort de cette formule. Ainsi, ces films noirs n'ont-ils plus rien de commun avec les bandes policières du type habituel ? Récit nettement psychologique, l'action, violente ou mouvementée, y importe moins que les visages, les comportements, les paroles, donc la vérité des personnages, cette troisième dimension dont il m'est arrivé de parler ici même. Et c'est un gros progrès. Après les films comme ceci, les personnages des bandes policières usuelles ont l'air de fantoches. Or, il n'est rien à quoi le spectateur d'aujourd'hui soit plus sensible qu'à cette empreinte de la vie, du vécu, et pourquoi pas, à certaines atrocités qui existent effectivement et qu'il n'a jamais servi à rien d'occulter. La lutte pour la vie n'est pas une invention actuelle.
Alors, on entendait la lecture par Julien Rosa d'un article de Nino Franck, paru le 28 août 1946. Et Delphine Le Thor, c'est l'apparition du terme film noir, qui recouvre, ma foi, un vaste mouvement cinématographique, puisqu'on continue à utiliser ce terme.
Oui, j'ai reconnu la citation de Nino Franck, puisqu'il est le premier avec Jean-Pierre Chartier à avoir identifié ces films noirs. Donc une série de films américains qui a débarqué sur les écrans français à la fin de la guerre, donc à la fin de la Seconde Guerre, alors que les écrans et le cinéma reprend vie, hein, et les critiques sont alors frappés par la tonalité de ces films, la tonalité glauque, et donc ils appellent cela des films noirs. Et c'est la dénomination qui est restée, qui a été reprise après par Bordet-Chometon, donc les premiers chercheurs français qui ont théorisé le film noir. Mais auparavant, il faut savoir que les réalisateurs faisaient ces films sans les identifier comme des films noirs. Donc c'est intéressant après que le film noir soit une telle source d'inspiration, puisqu'au départ, les films noirs n'existent pas. Ce sont des films de psychologie criminelle, des thrillers, des mélodrames.
Alors noir par le sujet, noir par l'esthétique, soit par le sujet criminel ou autre. Noir par l'esthétique, soit de rue déserte, de nuit, de brouillard. C'est ce ton-là que l'on retrouve aussi dans la photographie, puisque Pascal Hoël, c'était l'idée de la MEP que de faire une exposition qui reprend de manière libre aussi ce terme-là et qui n'applique pas nécessairement la chronologie qui est celle du film noir au cinéma.
Non, pas du tout. Enfin, ce n'est pas une exposition sur le film noir avec des photos de plateau, des portraits d'acteurs, etc. On a revisité la collection de la MEP en ayant à l'idée en tête l'esthétique du film noir. Donc c'était l'occasion de montrer à peu près dans l'exposition 45 photographes des années 30 à 2000. Mais comme vous venez de le dire, nous c'est l'esthétique du film noir, la nuit, la solitude des personnages, les choses comme ça, les ambiances un peu glauques, etc., qui ont primé dans notre sélection. Mais on s'est permis beaucoup de liberté dans ce dans ce parcours, il y a des photographes, des séries qui sont plutôt du ressort du road movie, du américain, etc. On a pris un peu de, beaucoup de liberté, mais c'est surtout une promenade dans la collection assez ludique et...
Alors c'est peut-être la particularité d'ailleurs de cette exposition, Pascal Hoël, c'est sa subjectivité, qui est une chose peut-être plus rare maintenant dans l'organisation des expositions, d'avoir choisi de casser la chronologie, de mélanger les époques et les situations, puisqu'il y a de la photo, ce sont des photos européennes, des photos françaises, des photos américaines qui se croisent, d'époques très actuelles, des années 90 comme de l'après-guerre dont on parlait au cinéma.
Oui, tout à fait. Enfin, le choix était très libre, mais en même temps, il y a parfois des rapports au film noir qui sont très réels. Il y a les photos de Luigi dans les années 40, qui était un photographe de faits divers américains, qui était en plein, lui, c'était sa vie, le film noir. Les rapports par rapport au film noir sont parfois très, très réels, très distants. Certains photographes étaient réellement des cinéphiles, férus de polar, et ça se voit dans leur travail. D'autres, c'était plus diffus, etc. Donc, effectivement, le lien avec le film noir est plus ou moins proche ou plus ou moins distant.
Alors de même, ils vont devenir aussi, ils vont ressortir dans la photographie parce que c'est des objets qui vont rentrer dans l'imaginaire collectif. Delphine Le Thor, vous avez parlé de ces lieux sombres, c'est aussi la ville avec cette atmosphère d'occupation, vous avez parlé de l'après-guerre, c'est aussi les trottoirs humides et cette ville un peu désertée.
Mmh. Oui, il y a de nombreux films noirs où la ville est un lieu de mystère. Je pourrais donner quelques titres. Par exemple, quand on pense à La Dame de Shanghai, qui se passe en San Francisco. Donc, c'est un film d'Orson Welles et on voit le personnage déambuler à la fin, se cacher dans le quartier chinois, par exemple. Donc, la ville devient un espace de mystère, de danger, de menace qui se cache. Et l'atmosphère nocturne rend cet espace dangereux. C'est Raymond Chandler qui disait les nuits, les rues sont plus sombres que la nuit, hein, pour dire que la noirceur de cette esthétique du film noir, elle convoque un mystère supplémentaire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça c'est un trope du film noir, mais il y a aussi de nombreux films qui utilisent la clarté. Donc il n'y a pas la difficulté de définir le film noir tient au fait que ça recouvre vraiment une diversité de films. Donc par exemple, je sais que vous avez passé La Mort aux Trousses, c'est un film plein de lumière qui ne tient au film noir que par
son sujet et son traitement terrifiant,
etc. Voilà.
Alors puisqu'on parle directement du cinéma, c'est aussi l'un des pans de cette exposition que de questionner les liens entre photographie et cinéma. Alors soit directement parce qu'il y a des photographies prises sur des tournages, il y en a aussi pour Remorque par exemple, mais aussi de par l'inspiration visuelle qu'a pu être le cinéma ou qu'ont pu être certains comédiens par exemple pour les photographes.
Par exemple, juste pour reprendre ce que vous venez de dire, pour La Mort aux Trousses, c'est parce que dans l'exposition, il y a une photo d'Helmut Newton de mode, qui est une parodie de la célèbre scène de l'avion dans La Mort aux Trousses, où il fait courir son mannequin devant un avion, ça fait l'affiche de l'exposition. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de programmer La Mort aux Trousses. Mais c'est une photographie, voilà, où le lien, l'influence du cinéma sur le photographe est absolument évidente.
Non, puisque vous insistez, on va vraiment écouter un extrait de La Mort aux Trousses d'Hitchcock.
Are you the Townsend of Losing Glen Cove?
Right. Are we neighbors?
A large red brick house with a curved tree-lined driveway.
That's the one.
Were you at home last night, Mr. Townsend?
You mean in Glencoe?
Yes.
No, I've been staying in my apartment here in town for the last month. I always do when we're in session here.
Well, what about Mrs. Townsend?
My wife has been dead for many years.
Oh.
Now, Mr. Kaplan, what's this
Mr.
all about?
Gray,
oh, forgive me, but who are those people living in your house?
What people? The house is completely closed up. Just the gardener and his wife living on the grounds. Now, Mr. Kaplan, suppose you tell me who you are and what you want.
Well, please, just... Look, do you know this man?
Que vous nous racontiez un peu plus précisément la scène, Delphine Le Thor, là c'est le héros incarné par Cary Grant, Roger Thornhill, qui va se retrouver pris dans une identité qui n'est pas la sienne et qui va se retrouver accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Il va fuir en public.
Oui, donc c'est une situation classique dans le film noir où le protagoniste est victime d'une situation dans laquelle il est piégé et il doit tout faire pour s'en sortir. Et ce combat pour survivre devient le moteur narratif du film. Donc c'est le cas dans ce film-là, mais... Un nombre incroyable de films traitent de cette même thématique.
Alors, le
personnage
film...
est un loser. C'est aussi la trame dans Détour, dans Assurance sur la mort. Tous ces films-là ne mettent pas en scène un héros, mais plutôt un personnage qui se débat contre les forces du destin.
Il se joue de lui,
il est l'objet, il est le pantin, il est...
Alors, film en couleur, puisqu'on revient à l'esthétique, Hitchcock qui, lui, a alterné. Alors, est-ce que c'est le film noir parce que c'est un film hitchcockien et qu'on rentre dans des thématiques de crime et de crime mis en scène directement à l'écran, malgré l'esthétique colorée? Qu'est-ce qui définirait les critères par rapport à d'autres films d'Hitchcock en noir et blanc? Là, on a toujours un petit problème de définition des limites du film noir.
Ah oui, est-ce que on est encore dans le film noir ou est-ce qu'on n'est pas déjà dans ce qu'on appelle le néo-noir, qui reprend consciemment les images, l'esthétique du film noir. Donc, je pense que Hitchcock est déjà dans cette transition-là. Le film noir a été identifié, il existe, on connaît ses codes et Hitchcock joue déjà de ses codes et de ses conventions. Il se réapproprie le genre, il réinvente le genre, un peu comme les photographes se réapproprient ces images-là.
Alors, vous faisiez allusion, Pascal Hoël, à justement la scène célèbre de l'avion qui est reprise comme image iconique de l'exposition. Ce sont aussi des photos de Brassailles, des photos d'enlèvement, ces photos-là qui reprennent cette esthétique hitchcockienne aussi, de la scène, du meurtre ou de la fuite.
Oui, enfin, ce qui est intéressant sur ces photos de Brassailles, justement, c'est que bon, Brassailles a fait des photos de Paris de nuit dans les rues de nuit en 1935-36. Et les photos d'enlèvement, par exemple, c'est des photos qu'il mettait en scène. Des photographes comme Doisneau, comme Brassailles, Bill Brandt aussi, qui a fait un livre Londres de nuit. Il y a des photos dans l'exposition. C'était son beau-frère qui jouait une scène de baiser avec sa femme. Donc, c'est des photographes. Enfin, la mise en scène était. Enfin, le rapport, la mise en scène et le cinéma, le rapport est évident.
Alors, est-ce que c'était le fantasme de devenir cinéaste à travers des séries photos? Vous utilisez beaucoup ce procédé-là dans l'exposition, parfois de séries qui permettent de reconstituer des scènes. Alors, certes, c'est une image figée, mais c'est une image quand même qui montre plusieurs mouvements.
Oui, enfin, la série, c'est très important en photographie. On s'est permis, là, dans cette exposition, parfois de mettre une image, mais aussi des séries complètes, parce que c'est là où on voit l'intégrité du travail d'un photographe. Donc, et aussi, on a fait des séries. Ce qui est très intéressant, c'est les rapprochements entre les photographes dans l'exposition. C'est que certains photos, si on a mis Arbus à côté de Newton ou de Ouija, c'est parce que Arbus et Newton étaient très influencés par Ouija. Arbus l'a très bien connu. Et Newton a toujours fait part de son grande admiration pour lui. Donc, en même temps, c'est des photos des mêmes années. Une photo de mode de Newton était complètement contemporaine d'une photo de rue d'Arbus. Donc, il y a beaucoup de parenté comme ça dans les séries et les juxtapositions dans l'exposition.
Alors, justement, sur cette question de la porosité des imaginaires visuels entre la photographie et le film, qui sont pourtant deux arts bien distincts, je vous propose d'écouter Brassailles. C'était sur France Culture le 23 septembre 64.
Paradoxalement, quand elle veut saisir le mouvement, la photographie, elle arrête le mouvement. Et plus vite on essaie de saisir le mouvement, plus c'est un mouvement arrêté. N'est-ce pas? C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, curieusement, la photographie essaie d'imiter le cinéma. C'est-à-dire que le film qui se déroule tous les jours dans le monde entier, n'est-ce pas? Il y a un film qui se déroule. Et de ce film, on veut retrouver des images dans les journaux. Alors, on prend des échantillons comme dans un film, et l'appareil même qui les prend, c'est des Leica, c'est-à-dire il utilise le même film que la caméra. Mais il n'y a aucun rapport entre le film qui est né pour le mouvement et la photo qui est une chose absolument statique. Et bien qu'il y a ce désir par les journaux, des grandes revues, le public de retrouver le mouvement comme si c'était un extrait d'un film. Que je considère que la photographie est une chose statique. Je veux isoler les objets dans la photographie et ramener chaque chose à sa solitude. Tandis que ces choses qui sont détachées d'un film, ils sont dans une continuité, n'est-ce pas? Je concède aussi que cette continuité aujourd'hui, aussi bien dans la littérature, aussi bien partout, c'est la mode.
Delphine Le Thor, on parle de phénomène de note, d'imitation en tout cas, de vouloir reproduire ce que fait le cinéma. Alors, là, on arrive sur la grande question, photo-cinéma, du mouvement et de la photo statique. Mais il y a aussi une volonté d'extraire des images qui se sont détachées déjà dans l'esprit au moment où elles sont apparues. Cet avion, il a marqué aussi un imaginaire.
Oui, je pense qu'il y a de nombreuses scènes du film noir qui sont devenues mythiques et qui existent dans l'imaginaire collectif. Des scènes de décor, des scènes de baisers.
Qui se sont figées d'une certaine manière.
Qui se sont figées, ouais, par... est-ce que c'est la magie du film noir ou est-ce que, enfin, moi j'ai argu que le film noir est un espace de rencontre entre une esthétique, une écriture, une culture. C'est aussi un genre qui s'est exporté, donc transnational, qui a intégré aussi des techniciens. Nombreux réalisateurs hein, ont fait des films noirs et ont transformé le genre, se sont accaparés ce genre. Ces clichés peut-être photographiques, ces images qu'on retient des films, c'est peut-être ces instants de croisement.
Alors, sur cette distinction justement, Pascal Hoël, et sur ce que disait Brassailles, est-ce que finalement on peut, bien sûr qu'on ne peut pas limiter la photographie à une sorte d'extraction d'images cinématographiques, et en même temps il y a des images qui sont devenues des affiches de films qui ont aussi marqué les esprits, qui ont fait pour le film noir autant que le film lui-même.
Oui, tout à fait. Enfin, il y a aussi par exemple dans l'exposition, il y a des photographies, moi je trouve étonnantes, on a vraiment l'impression qu'elles sont tirées de films. Donc, qu'on se dise, mais ce film-là, j'ai déjà vu ça, on cherche quel film il s'agit, alors que ça n'a aucun rapport. C'est juste les photos de Larry Clark, de sa série Tulsa, elles ont un contenu cinématographique absolument hallucinant. Enfin, si on les regarde avec ce regard-là.
Alors d'ailleurs, c'est pas n'importe quel exemple que vous donnez, parce que Larry Clark, il va aussi faire une carrière cinématographique. Donc, oui. La porosité, elle existe aussi du côté des artistes.
Ah, mais tout à fait, oui, justement, lui. Il était très féru de polar et de cinéma quand il a fait sa série de Tulsa, et il est devenu effectivement cinéaste avant. Et si on regarde son livre, on dirait vraiment un synopsis de film. Et beaucoup de cinéastes dans l'exposition, enfin, il y a beaucoup de photographes dans l'exposition. Il y a Robert Franck, Raymond Depardon, Johan van der Keuken, qui sont devenus de très grands cinéastes. Donc la porosité entre cinéma et photographie est absolument, enfin, presque évidente. Je crois que beaucoup de photographes sont, parfois, non, n'avaient aucune connaissance de la photographie en commençant, mais étaient très cinéphiles, par exemple.
Alors, il va y avoir des imaginaires très différents d'un côté et de l'autre de l'Atlantique dans l'exposition, puisque vous ne vous concentrez pas simplement sur la France, mais c'est aussi des photos américaines que l'on voit. Et là, c'est un autre imaginaire, vous faisiez allusion au road movie tout à l'heure. En tout cas, dans la photographie, il va y avoir les motels, la route. Justement, pourquoi ces choix de photos ?
Ben justement parce que elle nous évoquait, l'exposition fait aussi est aussi en parallèle avec une autre exposition, Henri Wessel, qu'on présente à la MEP. C'est justement lui qui a eu l'idée de revisiter son travail sur le thème du film noir et du polar. C'est un photographe qui travaillait sur le réel et qui a vraiment fait des sélections. Il a revisité ses archives pendant 40 ans pour ressortir des photographies qu'il trouvait digne d'être dans une fiction, et il a surtout assumé le déroulé de ses photographies de façon très stricte pour que le public se raconte son histoire. Donc on est parti de ça pour faire l'exposition Film Noir. Donc beaucoup de photographies ou de certaines séries dans l'exposition font un peu écho au travail d'Henri Wessel. Wessel faisait référence au Film Noir, mais c'est un travail qui était essentiellement au soleil de Californie, donc c'est un peu paradoxal, mais lui il était plutôt dans l'intrigue et le scénario. Nous, notre exposition est beaucoup plus sombre.
Alors sur cette question justement des États-Unis, la question américaine, comment est-ce que le film noir d'Delphine Le Thor va être travaillé aux États-Unis? Il y a plusieurs exemples de grands réalisateurs américains. On a le sentiment que ça a été une période pour certains, le film noir. Il y a peu de réalisateurs qui ont fait que du film noir. En tout cas, aux États-Unis, ça a été comme un moment de leur carrière.
Oui, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, les réalisateurs ne faisaient pas du film noir. Ils faisaient des films policiers, des films de gangsters, des films de cambrioleurs, des mélodrames, mais ils n'avaient pas conscience de faire du film noir. C'est pour ça. Mais bon, il y a quand même certains réalisateurs qui sont plus identifiés avec cette notion du crime, cette notion de la mort. Quand on pense au film de Fritz Lang, par exemple, j'ai vu aussi qu'il y avait le film de Jean Renoir, La Chienne, qui est diffusé à la MEP. Et Fritz Lang avait fait un remake de La Chienne qui s'appelait Scarlet Street, la rue rouge.
Alors, il y a eu plusieurs d'ailleurs films de Renoir sont montrés dans l'exposition. Plusieurs, il y a aussi la bête humaine, les photos de la bête humaine qu'on retrouve. Ça, c'est le film noir français.
Le film noir français, dont certains disent qu'il est précurseur du film noir américain. Donc il y a une querelle de critique, une querelle de chapelle à propos des origines du film noir.
Et Billy Wilder, alors puisque Billy Wilder aussi fait partie, vous avez parlé de l'assurance sur la mort tout à l'heure, on va peut-être en écouter un extrait, en dire quelques mots.
See what I mean, Walter?
Sure, I got good eyesight. You mean you want him to have the policy without him knowing it? And that means without the insurance company knowing that he doesn't know it. That's a setup, isn't it?
Is there anything wrong with it?
No, I think it's lovely. Then if some dark, wet night, that crown block did fall on him.
What crown block?
Only sometimes it can't quite make it on its own. It has to have a little help.
I don't know what you're talking about.
Of course, it doesn't have to be a crown block. It can be a car backing over and it can fall out of the upstairs window. Any little thing like that, just so it's a morgue job.
Are you crazy?
Not that crazy. Goodbye, Mrs. Diedrichsen.
What's the matter?
Look, baby, you can't get away with it. You want to knock him off, don't you?
That's a horrible thing to say.
What do you think I was, anyway? A guy that walks into a good-looking dame's front parlor and says, good afternoon, I sell accident insurance on husbands? You got one that's been around too long, one you'd like to turn into a little hard cash? Just give me a smile and I'll help you collect? Boy, what a dope you must think I am.
I think you're rotten.
I think you're swell, so long as I'm not your husband.
Get out of here.
You bet I'll get out of here, baby. I'll get out of here, but quick.
Delphine Le Thor, on va replanter un peu ce décor de Billy Wilder. Hein, c'est l'histoire de l'agent d'assurance Walter Neff qui tombe amoureux de la femme d'un de ses clients, qui essaie de le convaincre de souscrire une assurance vie pour son mari qu'elle souhaite qu'il tue.
Oui, c'est Assurance sur la mort, c'est quelque part la quintessence hein, du film noir. C'est un film qui commence par une voix off, un flashback, un homme qui est blessé, qui est sur le point de mourir et qui retrace en voix off comment il en est arrivé là. Et donc il remonte à sa rencontre avec Mrs. Diedrichsen, jouée par Barbara Stanwyck. Donc Barbara Stanwyck joue ici une très belle femme fatale, donc un autre personnage type du genre. C'est une femme qui est mariée à un homme plus âgé qu'elle, alors qu'elle est jeune, elle est belle. D'ailleurs, la première fois qu'elle apparaît à l'écran, on a un gros plan sur sa cheville, une cheville sur laquelle elle porte un bracelet, donc qui d'emblée la sexualise. Donc c'est une femme frustrée qui va utiliser Walter Neff pour arriver à ses fins et se débarrasser de ce mari bien encombrant pour hériter de son argent. Et Walter Neff tombe dans le panneau.
Alors c'est ce qu'on va voir aussi dans votre exposition et dans les photos. Il y a toute une mise en scène des femmes. Les femmes, alors l'image de la femme fatale, l'image de femme qui pousse au crime, c'est aussi un milieu très finalement une représentation très masculine de la femme qu'on retrouve même dans les photographies, Pascal Howell.
Oui, enfin, la femme fatale, c'est un des thèmes presque essentiels du film noir. Bon, nous, on n'en a pas énormément dans l'exposition de photos de ce type-là, mais effectivement, il y a beaucoup de... Dans l'exposition, il y a effectivement une majorité de photos d'hommes, souvent des hommes seuls, des hommes...
Il y a des femmes, mais elles sont nues au milieu de leur sang dans des scènes de crimes reconstituées.
Ah oui, il y a cette série-là qui est tout à fait particulière. C'est une série de Les Crimes, c'est le seul photographe qui fait de la mise en scène dans l'exposition. Tous les autres photographes travaillaient sur le réel. Lui, il a imaginé des photos de crimes de femmes sur le modèle des photos de la police, mais c'est une série qu'il a fait dans les années 70. C'est un photographe très provocateur. Là, il y a une grande mare de sang. En fait, c'est du chocolat. C'est des grandes traces de chocolat. Et Et sur chaque photo, si on regarde bien, c'est un tueur en série, et donc c'est un petit tas de pancakes qui marque la signature du tueur. Bon, l'Escrim, est un photographe très iconoclaste, qui a toujours fait des photos un peu transgressives dans la mise en scène. Bon, il est un petit peu à part dans l'exposition parce que c'est le seul qui vraiment fait de la mise en scène comme ça aussi particulière. Donc évidemment, là, sa série sur 10 meurtres de femmes, la place de la femme n'est pas tout à fait...
Mais même dans l'exposition, il n'y a que 4 photographes femmes qui ont été choisies parmi toute l'exposition. Il y a une cinquantaine à peu près de photographes.
Oui, c'est vrai, mais ça, c'est un peu malheureusement inhérent à beaucoup de collections. La collection a 40 ans d'histoire et on est en train de corriger cet aspect-là des collections comme beaucoup d'autres personnes. Mais pendant des années, les grands photographes étaient majoritairement hommes, étaient exposés et publiés. C'était les hommes. Ça a été comme ça dans toute l'histoire de l'art, dans des tas de domaines. Donc maintenant, on en a bien pris conscience et on est en train de rattraper un certain retard dans ce domaine-là.
Delphine Le Thor, est-ce que c'est un genre particulièrement masculin aussi, le film noir? On parlait de ces images de femmes pécheresses ou poussant au péché. Effectivement, Assurance sur la mort en est un exemple particulièrement criant.
Oui, c'est juste. Mais en même temps, il y a un certain plaisir, je pense, pour les spectatrices à regarder des films noirs où justement ces femmes, elles sont aussi toutes puissantes. Elles ne sont pas juste l'objet. D'ailleurs, on parlait, quand on parle d'assurance sur la mort, le personnage principal parle en voix off, en flashback, parce qu'à un moment, il perd le contrôle du récit, il perd le contrôle de ce qui lui arrive. Et pourquoi ? Parce qu'il a cédé à la femme. Donc, la femme, malgré tout, rayonne d'une puissance sur l'homme et sur le spectateur, qui est assez magique.
On va redonner la parole à un photographe, c'est Helmut Newton, il était en discussion avec Jean Dev dans Peinture Fraîche le 23 octobre 2003 sur France Culture.
C'est toujours la même femme avec le même homme, dans la même chambre d'hôtel.
Je vois une cicatrice, non?
Oui, mais c'est sûrement lui qui l'a fait mal.
C'est réel ou bien c'est une fiction?
C'est une fiction, bien sûr, c'est pas réel. Ce sont comme des acteurs. June était effrayée quand elle a vu cette photo pour la première fois avec le pistolet. Et l'a détestée. Mais maintenant, elle l'aime beaucoup.
Il y a un grand plaisir qui passe sur les lèvres de la femme, hein?
Oui. Oui, mais le thème était le sadomasochisme.
Et comment vous faites pour diriger les acteurs?
C'était difficile. Cette séance était très, très difficile. J'ai presque abandonné. C'était grâce à la fille qui était qui a amené beaucoup de qualité à cette séance qu'on a réussi. Cet hôtel est très, très célèbre. Vous savez, le Chelsea Hotel.
Vous croyez qu'il y a un grand plaisir pour elle à être nue devant vous?
Oui, je crois. Je crois. On ne s'est pas connus du tout.
Mais comment vous le savez, vous?
Ça se voit même dans les photos, hein. Vous avez deviné tout de suite.
Alors, Newton qui parle de fiction photographique. Alors, vous donniez l'exemple de Les Screens qui mettait en scène aussi ces photos. C'était un désir aussi de montrer que les histoires, les narrations ne sont pas seulement celles du cinéma. La photo aussi met en scène certaines histoires, des fictions, des poses.
Oui, enfin, c'est un des propos de l'exposition. Enfin, il y a quelques photographes, donc, qui faisait vraiment des mises en scène. Vous avez cité une photo de plateau de René Jacques où on voit Jean Gabin dans un film de Jean Grémillon. Enfin, René Jacques l'a intégré dans son œuvre. Il a titre Brest 1938, c'est tout. Il fait pas allusion au film, mais en fait c'est une photo de plateau. Bon, il y a Newton ou l'Escrim qui mettent en scène, mais une des grandes particularité de l'exposition, c'est de montrer justement la part de fiction qu'il y a dans toute photographie. Enfin, et particulièrement la thématique du film noir permet de révéler ça.
Alors, ce que l'on va retrouver, c'est cette esthétique du noir et blanc qui est peu, d'ailleurs, à laquelle n'échappent que certaines photos. Je pense à celle de Nan Goldin, qui sont les petites touches de couleur qu'il y a dans l'exposition.
Oui, c'est vrai. Il y a quelques travaux en couleur dans la seconde partie de l'exposition. La majorité est en noir et blanc. Mais comme l'exposition couvre la période des années 30 à 2000, la photographie est devenue très, très prioritaire dans la photographie à partir des années 90, mais avant, l'univers des grands photographes a longtemps été en noir et blanc.
Alors cette idée justement de scène de crime, on va la retrouver dans le film noir, mais alors qu'est-ce qui va les distinguer par exemple de scènes de thriller où, on voit aussi ces frontières avec le fait divers et le roman noir Delphine Le Thor. Il va y avoir ces liens directs entre le cinéma et le roman noir, et même le fait divers.
Oui, un certain nombre de films noirs sont adaptés de romans noirs. Et d'ailleurs, même les écrivains, les auteurs de romans noirs dans les années 30 et 40 travaillaient aussi à Hollywood. Donc, ils étaient scénaristes pour ces films-là. Donc, ça crée ces croisements entre littérature et cinéma. Il y a aussi un certain nombre de films, par exemple, qui sont basés sur des faits divers. Je pense à un film qui s'appelle, il me semble que c'est Fritz Lang, et qui s'appelle La cinquième victime, et justement qui est aussi une histoire de tueur en série. Et ça relate une enquête journalistique sur différents crimes. Donc le lien entre fiction, réalité, elle est aussi dans le film noir, justement par rapport à ce traitement du crime. Le crime, c'est peut-être le moment ou l'endroit où le réel survient dans la fiction.
C'est une manière de découper la ville. Hein. Les photos que vous avez choisies sont vraiment des photos qui donnent une représentation de la ville alors obscurcie, avec un pan complètement dans l'ombre, de rues assez étroites. Je pense à la rue Watts notamment, qui est aussi représentée de cette manière. Il y avait cette volonté de montrer l'espace urbain transformé par l'inquiétude du meurtre, de ce qui pourrait se passer dans un lieu désert.
Oui, c'est tout à fait. Enfin, c'est un point esthétique du film noir très très important. La ville, la nuit et les ambiances un peu de pluie, un peu glauque et haute. Donc, dans l'exposition, la première salle est consacrée à des photographes comme Brassailles, Doisneau, avec la rue Watt ou Bill Brandt et autres. Et c'est vraiment un rapport très évident avec ce qu'on a, nous, on appelle le film noir à la française, c'est-à-dire le réalisme poétique, les films
de Carnet,
de Jean Grémillon, avec les scénarios de Prévert, etc. Enfin, là, le lien est, je crois, tout à fait pertinent, enfin, est tout à fait évident. Surtout que Prévert était très ami avec, il accompagnait Brassailles la nuit, du côté de la Villette, et il parlait du tragique de la nuit, Prévert. Enfin, donc, ensuite, il y a des photographies qui sont très intéressantes de nuit et de villes américaines comme Chicago, qui sont très noires, les photographes américains. Il y avait l'école de Chicago qui faisait des photos très sombres et très noires. En fait, c'était des photos prises en plein jour. Les photographes comme Callahan ou bien Reis Metzger ou Ishimoto, un photographe japonais qui a travaillé là-bas, avaient une maîtrise des ombres énorme, une maîtrise de la lumière absolument incroyable. Et on a l'impression de photos de nuit, alors qu'elles sont prises en plein jour. C'est juste une maîtrise des ombres très noires. Donc cette façon de créer de la nuit en plein jour, ça rappelle un peu la technique de la nuit américaine, où au cinéma, on crée la nuit avec des techniques en plein jour. Bon, la nuit américaine, c'était pourtant, je crois, un terme français. C'était pas du tout un terme américain. Enfin, les choses s'interposent comme ça, se mélangent, et ça montre des choses tout à fait intéressantes.
Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots aussi de Ouija dont vous nous avez parlé tout à l'heure? C'est aussi Naked City, la série sur
Naked
la ville.
City, c'était un livre qu'il a fait sur ses propres photos. Ouija était un photographe complètement étonnant. Il était ami avec la police, donc dans le coffre de sa voiture, il avait la radio de la police. Il était branché sur la radio de la police, qui lui permettait d'être le premier sur les faits divers des nuits de New York. Donc il a fait un livre, Naked City, qui a été très 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 important. Et c'est Jules Dassin qui a repris qui a fait un film à partir de l'univers de Ouija, qui a repris ce titre. Et qui s'est vraiment inspiré des photos de Ouija. Il a tourné à New York, dans la ville, en plein air, pas en studio.
C'est La Cité sans voile, c'est ça?
Voilà, en français, c'est La Cité sans voile. Donc, oui, Jules Dassin s'est vraiment inspiré des photos et de l'univers de Ouija pour faire ce film.
Delphine Le Thor.
Et Naked City, justement, est présenté comme un film de non-fiction. Le film s'ouvre par un commentaire en voix off d'un policier et qui nous dit « Je vais vous faire découvrir la ville comme elle est, telle qu'elle existe. » Donc là, on est à la limite du film documentaire-fiction. Et ça s'ouvre, le film s'ouvre avec un panorama sur la ville de New York. Et petit à petit, on descend dans la ville et qu'on se retrouve au niveau du sol, au niveau de la rue. Là, on est dans l'espace limpiratique du film noir et on n'en sortira plus.
Il y a un imaginaire d'ailleurs documentaire dans l'esthétique qui ressort avec John van der Kuyken aussi qui est dans votre exposition. Il y a aussi cette idée de photographier les marges, les populations déshéritées, des quartiers de Brooklyn notamment. Je pense aux photos d'Airbus justement qui sont retravaillées, mais il y a aussi des photos d'hommes prostitués qui datent des années 90 pour le coup, dans des motels. Il y a cet imaginaire aussi de populations plus marginalisées qui rentrent dans le cadre de l'exposition.
Oui, ça c'est des photos donc plus récentes faites à la fin des années 90 de Philippe Di Corsia qui avait photographié justement des hommes prostitués à Los Angeles dans la rue. Mais ce qui nous a intéressé, c'est l'univers encore une fois très sombre et très noir de ces photographies. C'est un travail en couleur donc qui n'est pas du tout vraiment dans l'esthétique film noir, mais c'est quand même la solitude des personnages, le côté sombre de l'univers qui les entoure, qui nous a intéressés dans cette thématique-là. Mais on est dans des thématiques plus contemporaines, évidemment.
Et le motel aussi, qui vous intéresse, l'hôtel de bord de route, qui s'inspire aussi de ces films et de cet imaginaire.
Oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a le motel, je crois que c'est des photos d'une série de un triptyque de van der Kuyken qui voyage aux États-Unis à photographier un motel. Là, on est tout à fait dans l'univers du film américain, film noir ou road movie, au sens large du terme. Hein, on s'éloigne un peu du film noir proprement dit pour être toujours dans l'univers du cinéma et du scénario. Mais par exemple, il y a aussi une série de Mark Rudell, qui est un grand photographe canadien, qui a photographié un parc au Canada. Mais on pourrait tout à fait imaginer que c'est des photos pas du tout spectaculaires et autres, mais on pourrait tout à fait imaginer que c'est un endroit où un cadavre a été enterré, si vous voulez.
Delphine Le Torse, cette idée du mouvement, on la retrouve pas tellement dans les voitures. En tout cas, les voitures dans la ville, c'est plutôt une portière ouverte pour enlever quelqu'un. Mais on la retrouve dans l'imaginaire des rails, des trains, dans les films noirs. Alors, on parlait de la bête humaine, bien sûr, mais d'autres films encore montrent des voies ferrées, des trains.
Je pense au film de Hitchcock.
Bah, La mort aux Troussiens, une grande scène de train, si on fait toujours allusion.
Non, ce film en noir et blanc avec deux personnages homosexuels.
Lady Vanishes. Non, pas celui-là, un autre. On peut en faire beaucoup, la 39e
marche. On peut en faire beaucoup.
En tout cas, le train correspond plus à l'endroit dans lequel on peut se cacher, on peut faire des. Enfin, il y a des histoires de crimes.
On peut échapper. Avec c'est aussi des lieux confinés, donc c'est des endroits où les personnages peuvent être piégés. Je pense à un autre film, alors le titre m'échappe, où il y a une lutte, une sorte de scène de boxe à l'intérieur d'un train, et là, ça devient. Le train est un piège, on est piégé par ce mouvement. C'est plus tellement un objet de fuite. Il y a le symbolisme, bien sûr, dans la mort aux trousses à la fin. Tout le monde connaît cette image du train qui s'enfonce dans la roche et qui a été interprétée comme une image de pénétration. Mais le train est peut-être plus une image dans les derniers films du film noir, c'est plutôt quand même des courses de voitures qui prédominent dans le film noir.
Alors, puisque vous parlez des derniers films, je vous propose d'écouter l'historien du cinéma Patrick Brion parler justement de cette question de l'héritage. C'était sur France Inter le 6 janvier 2009.
D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le film noir a continué à exister comme genre, ce qui n'est pas le cas de deux autres genres qui étaient des genres prestigieux du cinéma américain, c'est-à-dire le western et la comédie musicale, qui ont quasiment disparu. Aujourd'hui, on a droit à un western par semestre. Avant, on avait 6 westerns par semaine dans les années 50. Donc ces deux genres-là ont quasiment disparu. Le film noir, en revanche, a très bien survécu, s'est ressourcé remarquablement, parce qu'en fait, il est ancré, je pense, dans la réalité de la société américaine. Donc il évolue en même temps qu'elle. Il a abordé des thèmes qui n'était pas autrefois le propre du film noir. Et c'est pour ça que le film noir a profité, si on peut dire, de cette espèce de libéralisation qu'il y a eu pour s'attaquer à ces thèmes-là. Et puis c'est vrai que le film noir aussi, ce qui le rend très moderne, et ce qui fait que les films noirs ont toujours un public sérieux, c'est que la permissivité des dernières années, des dernières décennies, a permis de jouer sur la violence, de jouer sur le sexe avec une franchise, une liberté qui n'existait pas avant.
Vous êtes d'accord avec ça, Delphine Le Thor ? Le film noir a survécu ? C'est encore de films noirs dont il s'agit ?
Je l'appelle du néo-noir. Comme je disais tout à l'heure, c'est parce que les réalisateurs aujourd'hui font consciemment du noir. Et ils réinvestissent les images clichés, les personnages de femmes fatales pour les transformer. Cette esthétique du film noir, elle est convoquée consciemment, des fois même pour faire référence à des films noirs du passé. Donc il y a un aspect réflexif, on joue avec le genre tel qu'il a existé pour dire autre chose et pour montrer autre chose.
Pascal Hoël, c'est aussi parce que le film noir et l'esthétique qu'on retrouve dans la photographie, c'est parce que c'est l'envers aussi de la société alors occidentale ou américaine que l'on retrouve, c'est son côté éternel finalement, c'est de représenter ça.
Oui, oui. Enfin, il y a beaucoup de photographes, même contemporains, qui, enfin, évidemment, les photographes ne sont pas là pour nous montrer le bon côté de la vie ou des choses gaies et réconfortantes. Les photographes s'intéressent souvent aux zones sombres et des tragiques de la vie. Donc, il y a toujours un univers chez des photographes contemporains qui sont proches, si on peut dire, de façon purement esthétique du film noir, si l'on veut. Mais c'est ce côté, dans l'exposition, il y a des photographes comme Nozzolino ou Gladys Luban ou autres qui sont loin de l'Amérique et autres et qui explorent d'autres continents et d'autres espaces. Mais c'est toujours la noirceur de la ville qui nous révèle.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez aller voir l'exposition Fil Noir à la Maison Européenne de la Photographie à Paris jusqu'au 25 août prochain.
Serre les dents, putain, montre que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y, explose et fous le feu. Serre les poings, gamin, sans te cacher pour un rien. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu. Serre les dents, putain, montre que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y, explose et fous le feu. Serre les poings, gamin, sans te cacher pour un rien. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu si tu veux. Ce n'est pas grave si tu ne te réveilles pas tout seul. Si à côté de toi c'est un gars et que t'as la larme à l'œil. Ce n'est pas grave si tu te pensais beaucoup trop jeune pour que ce sodome te la mette gentiment et sans battle. Ce n'est pas grave si quand tu dors tu rêves propolis qui te touche, qui t'adore tout pas avec ta petite copine. Ce n'est pas grave si encore ce matin au réveil tu te lèves d'une gaule mais il manque de Gaël. Ce n'est pas grave si tu t'es surpris à regarder papa. Ce n'est pas grave si tu t'entêtes à dire que c'était juste comme ça. Ce n'est pas grave si tu bugs quand tes potos se montent s'en bas. Ce n'est pas grave si t'as chaud et si ça devient à chaque fois.
Sans le vivre, ben ça c'est grave. Et ça c'est pire que rester à mentir dans le soir quand
ce n'est pas grave si avant tu disais que c'était sordide, que c'était que dans les télé-réalités que c'était possible. Ce n'est pas grave si maintenant c'est devenu ton réel qui te revient à la gueule alors que t'approches la quarantaine. Ce n'est pas grave si t'as glissé sur le porno d'à côté. Ce n'est pas grave si tu te dis que c'était sans faire exprès. Ce n'est pas grave si une bite apparaît sur tous les onglets. Ce n'est vraiment pas grave et même si tu commences à bander. Serre les dents, putain, montre que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y, explose et fous le feu. Serre les poings, gamin, sans te cacher pour un rien. Tu peux faire simple au lieu de te fier sur ce bleu si tu veux. Ce n'est pas grave si tu aimes mater ton voisin plus que des mains dans le dos, une main dans le sac et mine de rien. Ce n'est pas grave si tu l'appelles mon petit lapin et tu effleures son petit machin qui corrèle bien avec le tien. Ce n'est pas grave si tu sens des envies passagères qui te restent dans la tête plus fort que ce que t'as serré hier. Ce n'est pas grave si tu stresses quant à la manière dont tu vas dire à ta mif tu t'intéresses à des derrières. Ce n'est pas grave si tu penses à sauter ton meilleur ami. Ce n'est pas grave si tu t'avoues que Sabrina n'est plus jolie. Ce n'est pas grave si tu regrettes les deux doigts que tu t'es mis. Ce n'est vraiment pas très grave si tu restes focus sur Jimmy.
Sans le vivre, ben ça c'est grave. Et ça c'est pire que rester à mentir dans le
C'est Eddie De Pretto qu'on entend, Grave, de l'album Cure, qui est sorti en 2018. Eddie De Pretto qui sera en concert ce soir, 25 juillet, au festival Au fil du son à Civray, et le 26 au festival de la Paille à Métabief, le 3 août au festival Au Pont du Roc à Malestroit. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez. C'est la seconde partie de la Grande Table d'été, avec pour invité la romancière et poétesse Vénus Kourigata. Les mots de Vénus Kourigata voltigent, des mots pétris depuis toujours avec le même poids de farine et de frayeur, des mots tirés de l'enfance qui ont erré comme des fantômes avant de se poser sur sa langue, sur ses langues, des mots empreints de larmes qu'elle confie ces jours-ci à la mer. La poétesse et romancière Vénus Kourigata est l'invitée du festival Voix Vive de Méditerranée en Méditerranée de Sète. Elle est parmi nous pour le portrait de la Grande Table d'été. Vénus Kourigata, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venue à ce festival pour lire encore une fois, lire vos textes.
Ah, je suis une fidèle de ce festival qui a commencé il y a très longtemps à l'ODEV, puis Maïté Vallès-Bled, la grande prêtresse, je dirais, de la poésie, l'a transportée à Sète et c'est devenu un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand festival de poésie. Ils invitent chaque année une centaine de poètes venus de Tours de la Méditerranée. Et on entend toutes les langues avec des traductions, parce qu'il y a aussi un atelier de traducteurs. Toute la ville est dédiée à la poésie. Les rues du haut sont complètement interdites à la circulation. On ne voit que des chaises longues avec des estrades, avec des micros et des poètes qui, il y a peut-être parfois en même temps une quinzaine de poètes qui récitent dans des jardins, dans des rues, dans des parvis d'églises, partout, même sur la mer. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de lire sur un bateau. Il m'a appelé, il m'a dit « je suis sur un bateau ».
Alors comme ça, toute la ville s'arrête pour écouter les poètes.
Exact.
Et pour vous écouter aussi, est-ce qu'on peut commencer comme ça, Vénus Kourigata ?
Pas moi seule, pour écouter aussi les autres. Mais moi, je suis une ancienne, une vieille de ce festival et j'ai déjà un public qui me suit parfois.
On va commencer par vous écouter, nous, si vous acceptez de nous
avec
dire quelque
grand
chose.
Avec grand plaisir.
Qu'est-ce que vous avez choisi ?
Vous avez parlé de la mer.
Oui, j'ai parlé de la mer.
Alors, je vais dire des poèmes sur la mer.
C'est des extraits des mots des... Les mots étaient des loups ?
Des mots étaient des loups, voilà.
Votre recueil de poésie, peut-être avancez-vous un tout petit peu pour qu'on vous entende.
Voilà.
Allez-y.
Morte, la mer ressemblait au tilleul de la place. Au bois de la table sur laquelle elle écrivait nos trois visages. À la bûche qui ne transpire ni ne se plaint de ses fumées. Morte, la mer se mit à nous éviter. Elle tourna le dos à la lune, à la lucarne. Moins morte, elle disait la lucarne piège pour lune tombée dans sa lampe. Moins morte, elle disait la lune pain cuit entre deux pierres. Une lune ne remplit pas la huche, ne colmate pas les fissures de l'évier, ne balaye pas les miettes des disputes, ne rempaille pas les chaises, n'allonge pas la chevelure de l'hirondelle. La lune, disait-elle, était plus lune de son vivant. Les renards qui la reconnaissaient au flair retenaient leurs allumettes. Morte, la mer fut répartie entre trois trous. Quand l'hiver aura essoré son dernier nuage, on te retrouvera, mère, sur ce même seuil, appelant les enfants que tu eus avec un figuier de passage, aux pieds couverts de cornes. La guerre d'usure qui t'oppose depuis des années aux arbres supérieurs n'explique pas ta méfiance, ni les larmes qui brouillent la vue de tes vitres. Comment se faire admettre? Comment te faire admettre que tu ne fus qu'un lieu de passage d'une sève éruptive, sœur d'arbres fantasques qui disparaissent un an sur deux, reviennent, un nid sous chaque aisselle, au milieu de ta grande fatigue et que l'obscurité se juge sur ton épaule pour atteindre la nuit.
Merci, Vénus Quigata, d'avoir accepté de lire pour nous. Alors la mer, on retrouve les éléments, la mer, on retrouve la lune, on retrouve toujours cette nature flamboyante dans votre poésie, comme si elle venait au-delà de la question des hommes, au-delà de l'histoire qu'elle raconte, faire déborder tout ça.
Elle vient d'un village. Si je n'avais pas eu une enfance dans ce village, le plus haut du Liban, on disait qu'il était juché sur un nuage.
Vous parlez de Béchare.
De Béchare, bravo, merci. Je n'aurais pas, certainement je n'aurais pas eu ces images jusqu'à maintenant. Dès que je prends la plume, je vois le ravin, je vois la cascade, je vois la tombe de Khalil Gibran, je vois les maisons misérables avec de la chaux, peintes à la chaux, qui s'émiettent en bas sur le ravin. Et vers le haut, les maisons des gens riches sur la pente. Je vois l'atelier de l'oncle, le menuisier, qui était le seul fournisseur de cercueils de la région. On jouait dans les cercueils. La mort était ludique pour nous. Il y avait tout le temps quelqu'un qui mourait, et même le plus misérable des misérables, il mourait, alors il y avait des obsèques somptueuses pour lui. La mort était élevée au rang d'une conquête, d'une victoire, de quelque chose. On donnait aux morts ce qu'il n'a pas eu de son vivant.
La mort, c'est une source d'inspiration infinie dans votre écriture. La mort, d'ailleurs, comme trace aussi du souvenir des gens que vous avez fait revivre, que vous avez fait même parler comme des narrateurs de vos livres.
Oui, dans La femme qui ne savait pas garder les hommes, parce que j'en ai enterré deux, je les fais dialoguer ensemble. Le jeune mari qui est mort à l'âge de 52 ans, et l'autre qui est mort à 92 ans, ils sont là, dans cette maison, et la femme ne sait pas à qui se fier. La mort est dans ma poésie, parce que la mort, pour moi, c'est une autre forme de vie. On revit, mais sous terre, c'est pas grave. On revit avec ces objets, leurs mots ruissellent sur nos murs. Nos mots sont incrustés dans les tapis, dans le sol, dans le carrelage. Ils se nourrissent de l'odeur de notre pain, ils boivent les vapeurs de nos sources et de nos fleuves. Ils viennent nous... C'est eux qui tiennent notre main, qui écrit parfois. Il y a des images, des choses qui viennent, vous n'y pensiez pas une seconde avant. Et voilà que vous écrivez. Pendant 10 minutes, vous n'arrêtez plus. Moi j'ai l'impression que, d'ailleurs je le dis, ma mère analphabète est derrière mon dos. Elle me dicte des phrases. Je l'appelle un alphabète bilingue parce que ni en arabe ni en français.
Elle parlait d'ailleurs une sorte de mélange des deux.
Oui, c'est très bien. Une langue faite de deux langues. D'ailleurs, j'écris l'arabe, j'écris le français. Un français complètement rempli de la langue arabe, des images de la langue arabe, des odeurs de la langue arabe.
C'est aussi le chemin de la pensée que vous retrouvez différemment dans l'écriture et dans la poésie, mais c'est aussi ce chemin-là de la langue arabe syro-libanaise que vous retrouvez en français.
Tout à fait. Au début, plus que maintenant. Au début, quand je suis arrivée, il y a 45 ans, 48 ans, j'étais trop imprégnée de la langue arabe. Petit à petit, une langue que vous quittez, elle vous quitte. C'est comme les hommes, comme les gens que vous aimez. Elle s'est raréfiée. Même si je traduis Adonis, que je suis tout le temps en train de traduire de l'arabe au français, que je ne peux pas avoir un beau texte en arabe sans le publier. Elle s'est raréfiée. Elle m'a quittée. Et je suis bien dans la langue française. Je suis même très gênée, très triste même, je dirais, quand je vois mes romans traduits en arabe. Je n'aime plus cette langue emphatique, solennelle, qui aime le beau, qui aime le joli, n'est plus la mienne. Je suis devenue aussi sèche que le veut la langue française, aussi austère. Pas aussi, non, parce que là on dit « Ah, elle écrit jusqu'à l'os ». Non, je ne suis pas jusqu'à l'os. Je veux bien encore qu'il y ait un peu de chair, un peu de jus dans la langue française. C'est la langue de Rabelais quand même. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'essorer de sa dernière goutte. Donc j'ai deux langues dans ma tête. À un moment donné, j'entendais un cri de fer, un bruit de fer dans ma tête, comme s'il y avait un tuyal. Et petit à petit, ça s'est raréfié. Mais je continue à être, comment vous dire, comme si j'étais... Je regarde une langue et je louche vers l'autre.
Mais vous êtes aussi bilingue dans l'écriture en tant qu'écrivain, poésie et roman.
Exact.
C'est une sorte de bilinguisme.
Merci de le dire. Je le pense, c'est une langue à part, la poésie. C'est pourquoi il ne faut pas qu'elle suive des modes. Elle a sa propre mode. Quand on dit « Ah, c'est la poésie qui n'est pas moderne », je suis dans 10 jurys de poésie et je sais ce que c'est. Je reçois beaucoup de poésie. Il y a une poésie qui n'est pas moderniste, qui n'est pas abstraite, mais qui est très belle. Donc, c'est une langue à part. Il ne faut pas la juger selon les modes.
Alors, c'est une langue à part et en même temps, c'est aussi un peu la même chose, puisque vous, dans vos romans, on retrouve cette veine-là. La frontière, elle n'est peut-être pas aussi étanche que ça entre les personnages et leur langue poétique.
Vous êtes une confesseuse. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, avouer quelque chose. Quand j'ai un sujet dans la tête de roman, je commence par l'écrire en poésie. Et le poème me sert de pitch pour l'agrandir, pour l'allonger. Et après, c'est les personnages eux-mêmes qui continuent à raconter leur histoire. C'est beaucoup plus facile pour le roman.
Alors pourquoi ? Parce que le poème, c'est l'inspiration ?
Oui. C'est l'instinct qui raconte une histoire. En une page ou deux, vous avez planté le décor. J'ai toujours commencé par ça. La guerre du Liban par le recueil de poèmes, les cris des hommes. Puis je suis passée à Vacarme pour Lune morte. Tous mes romans, il y a un poème, deux, trois poèmes sur ce thème-là. Et après, ça devient un roman.
Alors si la poésie vient, le roman peut venir ?
Je suis, depuis l'apparition de Marina Tsvetaeva, Mourir à Elabouga, je suis incapable d'écrire un autre roman. Son histoire dépasse tous les romans. C'est une histoire terrible et en même temps d'une femme sublimissime, une des plus grandes poétesses de notre siècle. Et finir au bout d'une corde, elle se pend parce que on ne publiait pas ses poèmes dans son pays. On l'a rejetée en France, on l'a rejetée à Prague. On lui reprochait d'avoir beaucoup d'amants. Elle avait des amants parce qu'il y a un mari qui ne la portait pas, qui était un faiblard, qui s'était battu avec les blancs contre les rouges pendant la guerre de la révolution d'octobre. Et puis brusquement, il tourne au rouge. Il n'a jamais assumé sa femme et ses enfants. Alors, elle prenait des amants parce qu'elle se sentait protégée. Pourquoi Pasternak ? Pourquoi Rilke ? Rilke n'a pas été son amant. Au fond, elle l'a aimé. Mais elle se jetait au cou des gens. Rilke la remercie. Il ne la connaît pas. Il la remercie pour lui avoir traduit un poème en russe. Le soir même, elle lui écrit une lettre. « Rilke, j'aimerais dormir sur ton épaule, mettre ma main autour de ton cou. » Elle arrive à Berlin pour aller retrouver un mari qu'elle n'a pas vu depuis 7 ans. Et elle arrive à Berlin, on lui fait faire la connaissance de son éditeur berlinois, qui est un très grand éditeur. Il lui fait signer un contrat à midi. Le soir, elle lui écrit une lettre d'amour. Elle était assoiffée d'amour.
C'est ce personnage justement passionnel et passionné que vous aviez eu envie de transcrire. C'est cette vie-là ?
Je suis devenue ça. À mon âge, je ne vais pas me jeter au cou des hommes, bien sûr. J'ai une chatte, je me jette à son cou, c'est très bien. Mais elle était pathétique comme personnage. Elle était détestée par beaucoup de femmes. Elle faisait peur aux femmes, elle faisait peur aux hommes. Son histoire avec Pasternak, 30 ans d'écriture, de lettres, de correspondances brûlantes. Et elle arrive à Moscou malgré elle. On lui dit « Reviens à Moscou parce que elle n'avait plus le sou en France. » On l'a rejetée de l'appartement communautaire, on ne pouvait pas payer. Et elle arrive et elle comptait beaucoup sur la présence de Pasternak. Il lui donne rendez-vous dans un métro et au bout de 5 minutes, il regardait sa montre. Il lui dit « Zina, c'est sa jeune femme, m'attend avec des amis. » Donc, elle a été trahie par tout le monde, rejetée par tout le monde.
Vos personnages de femmes, vous dites « je ne peux plus depuis », on a le sentiment qu'elle est toujours là, alors c'est ça, et tant qu'elle est là, vous ne pouvez pas faire autre chose.
Tant que je fais des radios, des interviews, et que j'en parle dans les journaux qui lui consacrent des numéros spéciaux, parce que je suis publiée dans NRF Poésie en même temps qu'elle, nous suivons dans la même collection, c'est la première fois qu'on donne cette collection à une femme vivante, qui est moi.
Chez Gallimard.
J'en suis très fière. plus que fière. J'en suis tellement heureuse.
Parce que vous défendez ça aussi, la poésie des femmes.
Avec le prix qu'on a créé, qu'a créé avant moi, qui a été créé le prix Simone Veil de roman, le prix Venus Corrigata de poésie. Puis on l'a transporté à la maison de la poésie pour ne pas faire des isanies entre roman et poésie. Et on le donne à des femmes. Mais comme nous n'avons pas de sous, alors je fais appel à tous mes amis peintres. J'en ai plein grâce à Claude Bernard, le galériste, qui a ses peintres, qui me donne des dessins, des gravures, des lithos. Et cette année, on a donné à 5 poètes femmes.
Alors vous vous disiez, elle est toujours là. Comment ça se passe avec vos personnages? Les personnages, tant qu'ils sont là, on ne peut faire que ça?
Il y a des personnages qui vous collent à la peau, comme certains morts. Moi, j'ai écrit Morte maison après le départ de mon mari. Et je croyais avoir fini de cette histoire, que j'avais le droit de vivre. Bien, ils s'accrochent, les morts. Ils s'accrochent à votre ceinture. Ils veulent vivre à travers vous. Et vous continuez à les raconter dans d'autres livres. Les raconter de nouveau dans La maison aux orties, alors que le sujet n'était pas lui. La maison aux orties, c'est la maison de mon enfance. C'est la maison de ma mère, où mon père semait la terreur. Et qu'il voulait rejeter ce fils, le seul fils qu'il avait avec 3 filles. Il voulait tout le temps le jeter dehors. Et ce garçon est venu en France pour publier ses poèmes. On ne l'a pas publié.
Tout le monde c'est votre frère, Victor, dont
c'est
vous parlez.
C'est mon frère, merci. C'est la maison au bord des larmes qui donne chaque année une 15-20 études de jeunes qui viennent chez moi, qui disent faire un doctorat, mais je ne sais pas si c'est des doctorats ou une thèse ou quelques pages, ça n'a pas d'importance. C'est lui qui, n'ayant plus pu écrire parce qu'il a été en hôpital psychiatrique, il a eu des...
Alors on va reprendre l'histoire. Votre frère, qui est aussi un personnage qui est revenu beaucoup, sous une forme ou une autre, dans vos livres ou dans votre poésie. Votre frère, pour qui vous écrivez aussi, vous dites qu'il est à l'initiative de cette histoire-là. En tout cas, vous, c'est votre voix intérieure.
Quand il n'a plus pu écrire, j'ai écrit à sa place. Je n'aurais jamais osé écrire si lui avait continué. Il était très grand poète, on le publiait beaucoup dans les journaux libanais. Il est venu en France avec l'idée d'être publié, on lui avait donné des espoirs. Il est rentré sans ses poèmes, il est rentré drogué, voilà. Et son père, je ne veux pas dire mon père, l'a envoyé dans un asile psychiatrique et il en est mort, voilà. Donc j'ai écrit quand lui ne pouvait plus du tout écrire, qu'il ne savait plus qu'il était poète.
Alors ce personnage-là, vous parliez des personnages qui hantent, des esprits. Comment est-ce que vient la poésie? Vous avez pu raconter qu'à certaines périodes, elle ne venait plus.
C'était le cas il y a 3 mois, je me disais, je ne sais plus écrire de la poésie. Après les gens de l'eau, j'ai mis tout ce que je pouvais y mettre comme technique. Je dis technique. Je voulais arriver à quelque chose de très candide, très simple, très innocent, une écriture innocente, sans fioriture, sans solennité, sans emphase. Je voulais arriver à une sorte de pureté d'écriture que je n'avais jamais atteint parce que j'étais poète arabe, donc j'aimais les images, j'aimais les joliesses, et je voulais faire le contraire. Donc, après ce livre-là, Les gens de l'eau chez Mercure de France, je n'arrivais plus à écrire. Puis il y a 6 mois, ma sœur est morte. On l'a enterrée dans ce village de Pcherré. Ma sœur était une grande écrivain, était une journaliste, écrivain en langue arabe. Elle a eu le Booker Prize arabe. Et brusquement, ce village, là où elle est enterrée, il me saute au visage. Il revient avec tout ce qu'il y a dedans. Et finalement, on ne peut pas résister à la poésie. Il ne faut pas lui courir après quand elle s'en va. Elle est très mystérieuse. Dans une tribu indienne, ils disent la poésie, c'est la cabine téléphonique des ancêtres. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je le répète comme ça. Et ce village m'est revenu. Je ne sais plus, je suis à mon 30e poème, alors que je disais, c'est fini la poésie.
Alors
c'est fini le roman. J'ai mon âge, il faut que je vive. Il y avait tout le temps un crayon, un papier sous ma main. Je veux vivre. Eh bien, elle revient et je ne peux pas lui dire non. Ni on peut l'attraper, ni on peut la rejeter. La poésie vient quand elle veut, ça va quand elle
vient. Alors quand elle vient, comment ça se passe?
On n'arrête pas. On a honte même d'écrire 2 poèmes par jour. On se dit, tiens, 1, ça suffit, ma fille, tu es en train d'exagérer. C'est les mots qui... Il suffit d'un mot pour qu'il entraîne derrière lui d'autres mots, comme une locomotive. Et c'est fini, tu es dans un langage, en dedans de langage, en dehors du langage, qui n'a rien à voir avec le langage ordinaire. D'ailleurs, vous ne savez plus, quand vous êtes en pleine poésie, vous ne savez plus vous exprimer correctement quand vous voyez un plombier qui veut vous arranger votre évier. Vous lui parlez en langage poétique, vous devenez emphatique, vous devenez solennel. Oui, on devient un peu marginal, un peu en dehors des autres.
Et ce village de Bécharet, je dois très mal prononcer le nom, mais...
Non, c'est très bien.
Ce village-là, quand il vous est revenu, est-ce que c'était le même que l'image de l'enfance, que ce qu'il avait imprégné, puisque votre poésie, elle est très... Elle parle beaucoup de sensations aussi. Alors, est-ce que ces images-là, elles avaient vieilli?
Vous avez visé la bonne question. Il y a 15 ans, non, 10 ans, des jeunes qui font du cinéma ont fait un film sur moi. Ils m'ont dit, il faut qu'on aille dans ton village, qu'on retrouve tout ce que tu décris. Ce ravin, cette cascade derrière laquelle se cachent les morts, ce cimetière avec son mûrier mâle, avec les chèvres, tout ça. Il faut qu'on y aille. Ils ont payé un voyage, ils ont amené des techniciens, ils sont partis, ça leur a coûté très cher. Le film a été projeté au cinéma Balzac, il y avait 200 personnes qui étaient là, c'est très bien. Eh bien, je suis arrivée avec eux. Je n'ai rien retrouvé de ce que j'avais laissé. La cascade énorme qui nous faisait peur quand on était enfant. On nous disait les morts se cachent derrière la cascade parce que les morts revivent comme les larves, comme les insectes dans l'eau. On y croyait.
Elle n'était plus là?
Non, il y avait un filet d'eau tout petit, on dirait qu'une chèvre avait pissé. Le cimetière à côté, complètement dévasté par la guerre, il y avait quelques croix qui étaient écroulées dans l'herbe, il a été déménagé ailleurs. La petite église était devenue une grande, c'était la guerre, ils étaient en train de se battre, de mourir, d'avoir faim, ils ont mangé toutes leurs chèvres, il n'y avait même plus les chèvres, elles ont été toutes mangées. Je voulais à tout prix trouver une chèvre pour qu'on la photographie, j'ai dit mais il y avait des chèvres, autant de chèvres que d'enfants. Eh bien non, elles ont été mangées par la guerre, on a trouvé 2 chèvres avec un chèvrier, il a fait payer aux techniciens de l'argent pour qu'il lui filme ses chèvres, comme si c'était Marilyn Monroe, les chèvres. C'est incroyable, je me suis dit, il y avait même l'atelier de l'oncle menuisier qui faisait des cercueils. Toute mon enfance s'est déroulée, assise à l'intersection du figuier du jardin de mon oncle. On sentait l'odeur de la glu avec mon oncle qui rabotait, est devenu un lieu où on élève des poules. Je n'ai rien retrouvé. Et je me suis dit, il suffit de tourner le dos à un lieu pour qu'il s'évapore.
Sauf qu'il existe
qu'il
dans vos poèmes, ce lieu, partout.
Ah oui, je le dis dans mes poèmes.
Il existe.
Oui, merci.
Est-ce que vous nous diriez
oui,
encore
oui, avec plaisir, je peux dire ce poème que j'ai écrit pour ma sœur, parce que ça me fait plaisir de la faire revivre rien que par quelques mots. Je t'écris parce que tu ne sais pas lire. Que tu récites sans te tromper l'alphabet de la peur. Que tu reconnais au toucher l'herbe nourricière, aux fleurs, la source en amont du filet d'eau. Je t'écris pour te dire mon manque de ta main sur le ventre blanc du bouleau. Et de ton désarroi quand pâlit le maïs. Je t'écris sans écrire. Les passants piétinent mes mots. Mes consonnes ont la peau rêche. Mes voyelles sont nues. Je t'écris pour éteindre le feu qui dévore mes doigts dès qu'il touche ton nom.
Alors c'est bien sûr les morts qui parlent à travers vous, c'est l'hommage, mais c'est aussi le témoignage d'une vie d'écriture, une vie qui apporte des joies, mais qui est aussi une sorte de condamnation.
Il n'y avait pas de vie. La vraie vie, c'était quand j'écrivais. J'ai voyagé, je me suis exilée, j'ai vu beaucoup de pays, j'écrivais dans les aéroports, dans les trains, dans les avions, même chez moi, à la maison, quand j'avais un mari et que je pensais qu'il était éternel, je le laissais regarder la télé, passer la soirée, sa soirée seule, et moi j'étais en train d'écrire. Et je le regrette maintenant, on n'a pas de vie avec des gens qu'on aime pour... On doit aussi vivre avec les autres.
Mais est-ce que vous aviez le choix ?
Je n'avais pas le choix. J'écrivais pour deux, pour mon frère et pour moi. Maintenant, j'écris pour toi, pour mon frère, pour ma sœur, pour moi-même.
Il y a toujours des gens pour qui écrire ?
Oui, il y a toujours des gens qui m'ont manqué. Il y a derrière moi plein de gens qui sont dans les cimetières. Je suis d'un certain âge, c'est normal. Quand je pense à nos réunions du prix Max Jacob, Mallarmé, qui avait lieu chez moi quand je suis arrivée en France en 72, qu'il y avait Guilvy, qu'il y avait Jean Rousselot, qu'il y avait Alain Bosquet, qu'il y avait
c'était Robert un salon Sabatier. Chez vous, c'était un vrai salon.
C'était, non, réunion des jurys. Au lieu d'aller se réunir dans une brasserie ou dans un show, c'était chez moi. J'aime cuisiner, j'aime donner à manger, j'aime nourrir mes amis, j'aime nourrir les poètes.
Merci, Vénus Kourigata, d'être venue et merci d'avoir lu.
J'aimerais aussi dire qu'il y a le festival le salon du livre de l'île de Ré qui a lieu du 8 au 10 août. J'y serai, mais ça n'a pas d'importance que j'y sois. Mais il mérite aussi qu'on en parle. Un peu moins, beaucoup moins que Sète, qui est très important, qui est le plus grand festival au monde. Je n'ai pas vu de pareil.
Mais alors comme ça, c'est fait. Et on rappelle Voix Vive de Méditerranée en Méditerranée jusqu'au 27 juillet d'ici là. À réécouter aussi l'atelier fiction du 7 juin dernier intitulé Géographie du poème, dans lequel vous lisiez aussi vos textes. Quant à nous, je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Pascaline Bonnet, Alexandra Brouillet, Chouchane Djergaillan, Lou Le Joly et Julien Rosa, à la réalisation Alexandra Longuet, à la technique Jean-Guilain Meige. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site franceculture.fr.